Sud Vendée Sport, Nicolas Bonifay.
Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle saison du Sud Vendée Sport sur Digue Radio Sud Vendée. Un lundi sur deux, à 19h, on franchira les barrières du Sud Vendée pour partir à la découverte des différentes structures sportives, des acteurs et des actrices qui font le sport. Alors prenez vos baskets, c'est parti pour le Sud Vendée Sport, nouvelle saison. Heureux de vous retrouver pour la saison 2 du Sud Vendée Sport sur Digue Radio Sud Vendée. Nouvelle saison, nouveau générique et plein de nouveautés pour cette nouvelle émission. Ils seront nombreux. Dans le Sud Vendée Sport, vous découvrirez, vous vous informerez et surtout, vous apprendrez. Mais la seule qui n'a pas changé, c'est l'équipe qui a gagné ses galons de titulaire pour cette nouvelle saison. Pour les auditeurs qui ne les connaissent pas, je vais vous les présenter. Vous l'avez croisé sûrement en forêt de Mervent ou sûrement sur son vélo tout terrain. Elle dévale les pentes comme elle croque la vie à pleines dents. Elle possède son entreprise Ride End et propose des stages de pilotage ou de perfectionnement en VTT. Diplômée, elle continuera de nous apporter son expertise d'un haut niveau car elle en connaît un rayon. Bonjour Marianne Fillion.
Bonjour Nicolas.
Lui, le sport mécanique, c'est sa grande passion. Pilote et expert pour avoir roulé sur les différents circuits bien connus des 24 heures du Mans et celui de Paul Ricard entre autres, investi partout, il est passé, on l'appellera l'analyste. Il sera capable de nous apporter cette touche ou cet avis dont personne n'avait pensé. Capable de pousser la chansonnette pendant une émission, il vous donnera aussi les différents résultats sportifs du Sud Vendée. J'accueille Olivier Boutevin. Bonjour Olivier.
Bonjour les amis.
Enfin, il vient du Nord, supporter du HAC, mais surtout du sport en général, partenaire privilégié de grand nombre de sportifs qu'il coach afin qu'ils deviennent meilleurs, capable de rebooster des champions pour atteindre ses objectifs. Le sport n'a aucun secret pour lui. Fan de NBA autant que de cycliste ou de Ligue 1, ce connaisseur nous apportera cette plus-value dans l'émission. Bonjour Christian Sieselski.
Bonjour Nicolas et bonjour la team.
Alors elle est pas mal cette petite présentation, non ? J'ai plutôt bien ciblé ou ça va ?
Très bien. Ouais, c'est bien, moi j'en ai la chair de poule.
Olivier, tu nous poses une petite chansonnette d'entrée ou...
We are the champions.
Allez, on va pas perdre de temps pour cette nouvelle saison du Sud Vendée Sport. Et autant vous dire qu'on a déjà une émission de dingue. Le but, ça va être de tenir dans les temps, les amis, parce qu'on a plein de sujets à traiter. Et on va démarrer tout de suite par l'événement sportif. Et je vais commencer par toi, Christian. Qu'est-ce qui t'a marqué cet été ou tout simplement pendant les 15 derniers jours de la rentrée?
Écoute, je vais rester sur ce week-end. En un mot, ça se résume à Djokovic. Et par rapport à tout son palmarès et tout ce qu'il a fait, je voudrais quand même faire un petit message positif justement pour tous les bénévoles qui mériteraient exactement le même palmarès, on va dire, tous les bénévoles qui commencent cette saison. Voilà, je les vois déjà à Mervent là, pour le trail de la Renaissance, par exemple pour la ville de Fontenay, mais partout dans tous les clubs de sport. Et voilà, je voudrais franchement tirer un grand coup de chapeau et dire déjà merci aux bénévoles pour tout ce qu'ils vont apporter sur la saison. Et je veux faire un parallèle avec Djokovic, puisque pour moi, son palmarès et son trophée, c'est quelque part, enfin, à ma façon, une façon de dédier en fait cette victoire à l'ensemble du monde du bénévolat.
On est parti sur la chapeau de roue là. On remercie les bénévoles, mais on remercie aussi Djokovic. C'est Djokovic qui a gagné hier soir. Tu as regardé le match, Christian?
Alors non, je n'ai pas regardé le match. J'ai vu effectivement le titre. Ouais, c'est pas très grave parce qu'en fait, Djokovic, il n'y a pas vraiment de surprise dans sa façon d'aborder la performance et la compétition. Tout est dans le détail. Ce qu'il fait est juste artistique, peut-être pas autant que Federer, mais ça reste quand même du très 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 haut niveau. Mais voilà, c'est beau à voir, quoi, c'est vrai.
Olivier, quel est ton événement, toi, de l'été?
C'est un événement qui s'est passé ce week-end, la victoire de l'équipe d'Allemagne au championnat du monde de basket. C'est une grande première, parce que pour une fois, les États-Unis sont plus invincibles. Donc pour une fois, une équipe européenne a remporté ce championnat du monde. Chapeau, j'espère que ça a donné des idées à l'équipe de France, qui a fait une piètre prestation lors de ces championnats. Donc, rendez-vous aux Jeux Olympiques l'année prochaine. Je pense qu'il y aura peut-être des belles surprises. Et donc, j'attends une réaction de l'équipe de France.
Alors parlons-en de cette équipe de France. Christian, expert un peu en basket, qu'est-ce qui nous a manqué? Parce que, alors des joueurs sûrement, mais qu'est-ce qui nous a manqué?
C'est déjà la préparation a été, on va dire, réussie justement, mais je pense que c'était un trompe-l'œil véritable par rapport à l'approche de la compétition. Après, je pense que la Lettonie était aussi un cran au-dessus de ce qu'on aurait pu imaginer en fait, surtout que bon, ils n'avaient pas Porzingis, donc Ils ont peut-être un petit peu été, je vais pas dire surjoués, mais ils ont été un peu au-dessus de ce qu'on aurait pu imaginer. Après, chez nous, je pense qu'on commence à voir en fait les véritables problèmes de formation sur les lignes arrières, sur les meneurs de jeu. On s'est beaucoup reposé pendant longtemps sur Tony Parker, etc. Mais on forme finalement beaucoup d'ailiers, beaucoup de joueurs qui sont en partant sur la NBA. Donc on prend des profils comme ça, mais en fait dans notre formation sur le poste de meneur de jeu, bah là ça s'est vu vraiment. En fait, c'est le fait de mettre en place un jeu stable, complet, équilibré sur le terrain, qui peut alterner jeu rapide, jeu court. Il y a vraiment un problème d'organisation et sur la formation des meneurs, et voilà, comme on a un Victor Wembanyama qui arrive, il faut pas voir uniquement que l'aspect big man ou les ailiers. On a un vrai problème de formation en France, c'est réel, c'est concret ça.
Je suis tout à fait d'accord avec toi, effectivement. Puis il y a peut-être aussi un manque de renouvellement de joueurs. C'est vrai que des joueurs comme Nicolas Batum qui arrive en fin de carrière, donc effectivement il y a peut-être besoin d'un renouveau de l'équipe de France, hein. Je me souviens de exemple du football, hein, en 2018, personne n'aurait donné un iota sur l'équipe de France. Pourtant, c'était que des jeunes et pourtant, ils ont réussi. J'espère que l'équipe de France va se renouveler. Effectivement, on est dans une phase de transition où les Rigobert, tout ça, sont en fin de carrière. Et donc, c'est aux jeunes de relever le challenge et puis de poursuivre la belle image de l'équipe de France en basket.
On va continuer avec Marianne. Marianne, quel était ton événement de l'été ou tout simplement des derniers jours ?
Alors cet été, je retiens deux choses en particulier, les championnats du monde de cyclisme évidemment, et puis l'excellente forme en fait des équipes de France, et en particulier les équipes de France de VTT et de BMX. C'est vrai que en cyclisme traditionnel, ça s'est un tout petit peu moins bien déroulé. Je ne suis pas suffisamment spécialiste pour dire s'il manquait de quelque chose, en tout cas c'est très très encourageant pour les Jeux. Et puis la forme est là, puisque la Coupe du Monde DG ce week-end a montré que les Français étaient aux avant-postes, avec un doublé en descente, hein, chez les élites hommes et dames. Donc ça s'était jamais passé. Donc on est plein d'ondes positives pour les Jeux. La descente est en discipline officielle cette année aux Jeux. Donc sur un spot un peu particulier, c'est Saint-Quentin en Yvelines. Donc on imagine mal faire de la descente à Saint-Quentin, mais je pense que tout le monde sera assez surpris du résultat. Et puis une nouvelle fois, en cross-country, on va avoir un parcours assez exceptionnel. On voit l'excellente santé, hein, entre Pauline Ferrand-Prévot, Loana Lecomte chez les filles, et puis Victor Koretsky qui gagne ce week-end. On est vraiment sur une équipe de France de VTT qui est aux avant-postes. Alors c'est un travail de longue haleine, puisque contrairement à peut-être d'autres disciplines, il y a un gros travail dans les écoles de cyclisme aujourd'hui qui est mis en place depuis de longues années, de plus en plus d'éducateurs professionnels qui interviennent dans les écoles pour accompagner les bénévoles. Il y a évidemment un essoufflement peut-être dans certaines structures, mais aujourd'hui le sport de haut niveau est particulièrement accompagné sur la Fédération française de cyclisme, et on voit le résultat, notamment dans ces disciplines émergentes. Parce qu'évidemment, j'ai pas parlé du trial, j'ai pas parlé du BMX, mais au championnat du monde, on retient quand même le triplé français chez les élites hommes. Bon là, aujourd'hui, il n'y a aucune nation qui est au-dessus de la France en descente, en VTT de descente, en VTT XEC et en BMX.
C'est ça qui permet de performer, en fait, c'est toute cette structure-là qui existe, et puis peut-être la mécanique aussi, des nouveaux matériaux.
Alors, le matériel peut jouer un rôle indispensable. En fait, en vélo et dans les sports de pleine nature, de manière générale, c'est un ensemble, hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez la préparation physique de l'athlète, sa préparation mentale. Il y a tout le staff qui est autour, le staff technique, mécanique notamment, puisque la performance sans un outil qui est un engin qui est parfaitement maîtrisé, entretenu, c'est compliqué. On voit apparaître depuis quelques années, effectivement, une révolution dans dans l'utilisation du matériel, en XC notamment. On n'imaginait pas, il y a une dizaine d'années, d'avoir des vélos tout suspendus avec des tiges de selle télescopiques en championnat du monde. Ça paraissait complètement hallucinant. C'était pour les descendeurs ou les enduristes. Enfin, les descendeurs, j'exagère, puisque les selles sont particulièrement basses. Mais l'évolution du matériel permet, en fait, d'une part, certainement de rouler plus vite, mais il faut quand même appuyer sur les pédales. Et là aujourd'hui, on s'aperçoit surtout que les athlètes issus en fait des préparations fédérales, avec notamment dès le plus jeune âge le trophée du jeune vététiste, où les enfants sont amenés à pratiquer l'ensemble des disciplines des activités du VTT, permettent en fait aujourd'hui de distinguer ou de sortir des athlètes qui ont des facilités plus en cross-country, plus en descente, après en BMX, en trial. Et c'est cet ensemble qui fait qu'aujourd'hui les Français sont aux avant-postes. C'est-à-dire que quand on voit le tracé des championnats du monde cette année, c'était un tracé à mon époque quand je roulais en descente. Hein. Donc avec des vélos à l'époque, certains découvriront mon âge puisqu'on était en 180 mm de débattement, donc ça vous laisse imaginer les années où on roulait. Donc on voit des sauts assez extraordinaires, des ruptures de pente, des pierriers, les athlètes passent tout ça en semi-rigide sans aucune difficulté.
Eh bien, tout ça aussi, ça fait partie de la préparation physique qu'on va parler. Et tout de suite, dans cette émission du Sud Vendée Sport, on a l'invité du jour.
Sud Vendée Sport, l'invité.
Alors, pour cet invité du jour, Christian, je vais me retourner vers toi parce qu'on a pu interviewer Alexandre Marle, préparateur physique. Tu vas nous expliquer un petit peu de quel joueur et quelle équipe surtout il est passé. Est-ce que tu peux nous expliquer et nous présenter Alexandre Marle, Christian ?
Oui, Alexandre Marle est donc une personne qui a travaillé, œuvré, entre autres, avec l'équipe de France de football en tant que préparateur physique, mais également le Paris Saint-Germain et l'Olympique Lyonnais. Il a une grande expertise de par ses diplômes, notamment biomécanique, préparation mentale, tout ce qui est diplôme d'accès aux informations data, vidéo également, donc il a un parcours très complet, donc il est devenu directeur de performance de ces clubs là et son parcours l'a amené aussi à travailler avec le Manchester City Group et donner beaucoup d'expertise par exemple dans le cyclisme, donc à très haut niveau, pour les plus grandes équipes, on va dire, du circuit UCI. Et aussi amener des rapports d'expertise, par exemple, sur tout ce qui est approche physique, mais aussi récupération pour la NBA, donc en Major League Soccer. Enfin voilà, c'est effectivement une personne qui a une connaissance élargie, qui a aussi implanté tout le réseau GPS, on va dire. Il a été le précurseur du modèle GPS pour les entraînements dans le football. Il a fait venir, on va dire, tous ses matériels au départ, et donc c'est ça qui a pris une ampleur où maintenant ça fait partie tout simplement du commun du sportif de haut niveau et notamment du joueur de foot d'avoir ses outils à disposition, et notamment après en matière de lecture de data.
Justement, tu parlais de GPS avec les footballeurs, ça consiste en quoi ?
En fait, ce sont des récupérations de données sur le terrain, donc par rapport non seulement, alors bien sûr, il y a les attitudes, les comportements et les contextes, mais c'est surtout des données brutes qui va effectivement permettre aux joueurs d'adapter à la fois sa préparation, c'est-à-dire voir en fait quel type d'effort il a fourni en matière d'accélération, en matière d'endurance, enfin, à tout niveau. Donc, par contre, là, ce n'est pas mon domaine personnellement, mais là, effectivement, Alexandre pourra en expliquer bien plus. Et ça va très très loin en fait dans l'analyse des données, justement. Mais après, justement, il y a aussi l'aspect récupération. En fonction du type d'effort fourni, donc à l'entraînement, forcément, le joueur fournit des efforts et toute l'adaptation de son circuit de performance va dépendre de ces données qui sont recueillies et la façon dont elles sont, interprétées.
Et nous, pour cette rentrée, on l'a contacté tout simplement parce que souvent, on a des résolutions en début d'année ou souvent au mois de janvier. On a un peu abusé pendant les vacances et on souhaite reprendre le sport. Et donc, avec Alexandre, on va parler plutôt de préparation physique et on l'a pu l'interroger la semaine dernière parce qu'il était entre deux voyages et il était retourné chez lui. Et on va l'écouter tout de suite au micro de Christian. C'est Alexandre Marle, préparateur physique.
Aujourd'hui, j'ai le plaisir et le privilège d'interviewer aujourd'hui avec Nicolas, une personne qui a régulièrement l'occasion de passer sur des grands médias nationaux comme France Info, RMC Sport. Et il est avec nous, c'est un privilège de l'avoir sur Digue Radio Sud Vendée. Il va mettre à disposition son expertise sur la préparation physique. Alors si je vous donne comme ça en vrac, équipe de France de football, Laurent Blanc, Paris Saint-Germain, Olympique Lyonnais, INSEP, NBA, enfin tout ça, voilà, il est encore jeune, mais il a une expérience à couper le souffle, enfin, j'aimerais plutôt qu'il vous aide à vous en donner avec ses conseils. Il en connaît un rayon dans de multiples domaines du sport, notamment le cyclisme. Il a de nombreuses fonctions, des diplômes, il est docteur en physiologie, en biomécanique, il a de nombreux brevets d'état, des diplômes en analyse vidéo, en préparation mentale, c'est même lui qui a un peu amené le sport français à se moderniser grâce aux outils GPS, tracking, vidéo dans le monde professionnel. C'est un précurseur, un connaisseur. Il va répondre à nos questions pour vous, les auditeurs, et je vous présente Alexandre Marle. Bonjour Alexandre.
Bonjour, bonjour à tous, bonjour Christian, bonjour Nicolas.
Bonjour Alex.
Est-ce que la présentation est complète, Alexandre ?
Ça suffira.
Ça suffira.
Oui, c'est très bien. C'est très bien.
Est-ce que tu veux nous parler de tes activités actuelles, s'il te plaît ?
Actuellement, je travaille pas mal avec des joueurs qui évoluent dans le championnat chinois. J'ai pas mal de joueurs étrangers qui sont en Chinese Super League, et notamment dans les deux clubs de Shanghai. Mais bon, j'interviens aussi également pour d'autres joueurs en fonction de leurs besoins, surtout les joueurs quand ils ont des petits pépins physiques, des problèmes récurrents ou sinon en avant-saison. C'est vrai que je voyage beaucoup, moins pendant le Covid, mais pendant le Covid, j'ai été débordé de sollicitations d'agents et de joueurs pour m'occuper aussi de leur suivi physique. Mais ces dernières années, oui, c'est vrai, j'ai travaillé pas mal aux États-Unis en NFL, en NBA, et puis voilà, récemment, j'étais encore en Chine ces 6 derniers mois. Voilà, un peu mon occupation actuelle.
Bah écoute, en tout cas, c'est pour ça que tu en connais beaucoup, et j'ai un mot à te proposer, le mot performance. Qu'est-ce que tu en penses de ce mot-là, Alexandre?
J'ai envie de dire que c'est un mot, je vais pas dire que c'est un mot nouveau, parce que c'est un peu comme ça qu'on m'a nommé quand j'étais à Paris. Et finalement, à partir de 2013. Et c'est un mot après qui est arrivé un petit peu partout. Tout le monde s'est mis un petit peu responsable performance, gérant de la performance, manager de la performance, préparateur physique et performance, etc. Je ne vais pas dire que c'est moi qui étais à l'origine de ce mot, et je connais une personne en tout cas qui m'avait surnommé un petit peu comme ça, c'était un agent. Et c'est un mot qui existait déjà outre-Atlantique, aux États-Unis. C'est un mot qui arrivait un petit peu en Europe un peu plus tard, autour des débuts des années 2010. Et aujourd'hui, c'est vrai que quand on regarde un petit peu responsable de performance, head of performance, manager de la performance, on tape ça sur Google ou sur LinkedIn, on va trouver des centaines et peut-être même des milliers de profils. Aujourd'hui, tout le monde c'est nommé responsable performance. Alors ça englobe beaucoup de choses, et je pense aussi qu'il faut un certain recul, une certaine expérience pour savoir bien gérer la performance, que la performance elle est multifactorielle, c'est de l'humain déjà, c'est de la gestion de l'humain, c'est de la gestion physique, de la gestion d'alimentation, de la gestion de l'hygiène de vie, sommeil, la récupération, le quotidien, la vie de famille, le mental, l'envie de se dépasser, voilà, c'est beaucoup de choses à la fois, et pour être bon à très haut niveau et pour être de plus en plus performant et le rester, voilà, c'est un tas de facteurs qu'il faut gérer. Alors c'est pas toujours facile, mais voilà, c'est pour moi ce que représente la performance, et ce qui est aussi un petit peu le cœur aujourd'hui de travail de nombreuses fédérations à l'arrivée des JO, et c'était aussi le cœur de travail de la mission INSEP qui avait été mise en place il y a déjà quelques années.
On entend derrière un petit peu tous les on va dire, les facteurs différents que tu nous donnes, hein, par exemple le mental, que c'est compatible, la performance avec le bien-être, qu'est-ce que tu en penses ?
Ben oui, mais je suis entièrement d'accord. Aujourd'hui, un sportif n'est bon que s'il est bien dans sa peau, s'il est bien dans sa tête, et bien évidemment s'il est bien physique. Parce que bon, la plupart des performances, elles sont davantage sur le plan physique que sur le plan émotionnel, mais l'un ne va pas sans l'autre. Et on le rencontre tout le temps, un joueur qui est, moi j'en ai quelques-uns, qui sont éloignés de leur famille, parce que parfois des joueurs partent assez loin à l'étranger, et la famille suit au début, et finalement le cadre de vie ne leur convient pas, et le joueur reste un an, deux ans, trois ans, et la famille vient qu'une semaine, tous les deux, trois mois, et on sent bien que le joueur est pas, se sent pas bien, le fait d'être éloigné de ses proches. Je parle de la famille proche, souvent c'est la femme et les enfants, mais je parle pas des amis, des parents. C'est toujours délicat pour un joueur d'être éloigné comme ça, et parfois il y a le décalage horaire aussi, et c'est-à-dire que pour communiquer, bah c'est jamais évident non plus. On est sur certaines heures, ou même pour certains joueurs il y a des prières qui sont réalisées avec la famille, et ça oblige le joueur à se lever plus tôt ou à se coucher plus tard. Donc évidemment c'est des contraintes, et ce bien-être il est moins présent finalement, et ça entraîne des contraintes mentales, des contraintes également physiques, puisque finalement si le joueur doit se coucher plus tard ou se lever plus tôt, bah il dort moins finalement, donc il récupère moins, et bon voilà, ça va toucher après sur la performance physique et sur le reste quoi.
Alors justement, on va peut-être un petit peu plus toucher nos auditeurs, et je pense que toi, au travers du monde du sport, du très haut niveau, tu peux apporter à nos auditeurs des conseils. On va parler par exemple de course à pied. Souvent on voit des personnes qui vont courir pour diminuer le stress, mais au final, moi je vois beaucoup de gens, je ne sais pas si c'est le cas pour toi, qui court, mais on sent qu'il y a une sorte de difficulté physique à le faire, ou parfois on a même l'impression que les personnes peuvent se faire du mal à courir. Est-ce que tu ne penses pas que c'est plus important d'être dans le bien-être avant de courir pour mieux courir, ou est-ce que c'est mieux de courir pour diminuer le stress justement ?
Ben, j'ai envie de dire que ça va dépendre de l'objectif qu'on s'est réellement fixé, puisque j'entends également, parce que je m'entraîne, je continue également de m'entraîner pour rester à un bon niveau physique pour pouvoir accompagner les joueurs que je suis, mais en fait il y a plusieurs choses. Souvent on est dans les nouvelles résolutions de la nouvelle année ou les résolutions de la rentrée. Voilà, c'est septembre, janvier, c'est globalement les mois où finalement on trouve qu'il y a le plus de gens en train de faire du sport, de courir ou de s'inscrire dans des clubs de sport. Après, faut essayer de faire la part des choses. Est-ce qu'on le fait parce qu'on en a une réelle envie, ou est-ce que c'est un défi qu'on se lance, ou on se dit allez, c'est ma résolution, je vais me mettre à courir, mais bon. On démarre pas comme ça la course à pied ou même un autre sport parce qu'on l'a décidé. Il faut d'abord s'équiper, il faut d'abord y aller progressivement. On part pas pour courir une heure tout de suite quand on n'a jamais couru. On part pas pour courir ne serait-ce que 20 ou 30 minutes lorsqu'on a 10 kilos en trop. Ça, c'est évidemment pas les meilleures solutions. Donc, il faut absolument parfois, j'ai envie de dire pour la plupart, se faire accompagner, surtout quand on n'a jamais été sportif. Et quand on a été sportif, bah, pense à reprendre progressivement. Et la principale difficulté, c'est de reprendre et de reprendre comme il faut, puisque chaque kilo, j'ai envie de dire, en surpoids, et on en a tous dès lors qu'on souhaite se relancer dans une activité sportive, chaque kilo, bah, c'est une dépense énergétique qui va être supplémentaire à chaque mètre parcouru. Donc évidemment, il faudra réduire la distance à parcourir, et puis chaque kilo en plus, c'est aussi une charge supplémentaire sur les muscles, sur les articulations, sur les os, et c'est des dommages collatéraux qui vont arriver très très vite.
Qu'est-ce que tu conseillerais à nos auditeurs qui veulent se relancer dans la course, soit pour perdre du poids comme tu l'expliquais, ou même tout simplement reprendre le sport? Est-ce qu'il faut mieux démarrer par d'intermittence, ou est-ce qu'il faut mieux démarrer par de l'endurance?
Bah, encore une fois, c'est de l'intermittence, c'est l'idéal, puisque alors je parle pas de l'intermittent à haute intensité, mais pour moi de l'intermittent lorsqu'on reprend, c'est je cours, je marche, je cours, je marche. Voilà, c'est comme ça qu'on doit construire une séance. Je cours un petit peu, une minute par exemple, et je marche pendant une minute. et je fais ça pendant 10 minutes. Donc ça fait, c'est pas forcément très très long, ça fait pas une durée de course qui est grande puisque ça va faire 5 minutes de course, 5 minutes de marche, mais c'est un premier moyen de reprendre l'activité physique et d'y aller en termes de progression. Je parle pas du tout d'intensité, en tout cas dans un premier temps, c'est vraiment d'y aller progressivement. Surtout si on est en charge pondérale qui est importante, l'un ne va pas sans l'autre, il va falloir réduire un petit peu d'abord les apports alimentaires pour pouvoir reprendre aussi la course à pied de façon assez efficace.
J'ai aussi une question.
La course à pied est un sport qui est quand même relativement traumatisant. C'est bon, à chaque moment, à chaque foulée, on va avoir le choc. Alors la plupart des gens, en plus, courent beaucoup sur la route. Donc évidemment, même si on a des très bonnes chaussures, on a une absorption du choc au moment où on pose le pied. Par contre, faut pas oublier que il y a un double choc. En fait, on pose le pied, mais il y a aussi le sol nous renvoie une onde de choc, en fait, et cette onde de choc, elle n'est pas absorbée par l'amorti vraiment, elle est absorbée par les muscles, et c'est souvent cette onde de choc qui génère le plus de traumatisme sur les jambes.
Moi, j'ai une question par rapport aussi aux conditions climatiques, puisque comme tu travailles partout dans le monde, tu connais un petit peu toutes les sortes de climats, et on voit bien que chez nous, on a de plus en plus d'épisodes de grande chaleur. Et parfois, voilà, des grandes différences de température d'une semaine à une autre. Comment tu peux, au travers de ton du haut niveau, donner aussi des conseils aux auditeurs sur ces changements un petit peu climatiques qui peuvent parfois être un peu déroutants pour nous déjà dans nos vies quotidiennes, mais surtout en matière de sport?
Tout simplement, il faut s'adapter déjà. Ça, c'est la première chose. Quand je vois des slogans qui sont lancés par les journaux, les télévisions, même les villes, j'ai vu certaines villes en France qui se mobilisaient lors des événements de forte chaleur, on vous dit restez chez vous, mais non, j'ai envie de dire il faut pas rester chez soi, c'est de la sédentarité, c'est ne rien faire et ne pas s'adapter. Il fait chaud, c'est pas un souci, il faut simplement éviter de faire des efforts physiques trop intense, surtout si on n'en a pas l'habitude, mais on peut très bien aller faire de la marche sous bois, y aller progressivement et s'adapter justement à ces conditions de chaleur. Alors on parle de chaleur, mais bon, il faut aussi mettre en relation la chaleur et l'humidité, puisque j'étais bien placé par rapport à où j'étais récemment à Shanghai. J'ai passé un mois d'août, il faisait régulièrement des pics de 40 degrés et à peu près 80-95% d'humidité. On peut vous dire que pour s'entraîner, là oui, ça devient très difficile, surtout si on n'est pas acclimaté et pas adapté. Il faut savoir que pour s'adapter à la chaleur, il nous faut à peu près 2 semaines. Au bout de 2 semaines, on arrive à s'acclimater à la chaleur. Alors c'est quoi s'acclimater à la chaleur? C'est transpirer plus, tout simplement. En fait, quand on fait de l'exercice physique, ou même lorsqu'on fait simplement de la marche en extérieur, le corps se réchauffe et il a besoin de se refroidir. Et plus l'activité physique est importante, plus le corps va chauffer, on va monter en température 38, 39, 40 degrés lorsqu'on fait des efforts très intenses. Et le corps a besoin de se refroidir. Pour se refroidir, il n'y a pas 50 solutions. C'est soit on lui met du froid dessus, mais bon, lors de l'effort physique, ça n'arrive pas. Soit il se met à transpirer fortement pour évacuer cette chaleur par la transpiration. Et avec les gouttes de transpiration et le contact avec de l'air, ça générait une petite fraîcheur au niveau de la peau et avoir un petit frisson thermique même lorsqu'il fait chaud. Et en fait, on transpire pas parce qu'il fait chaud. On commence à transpirer fortement lorsqu'on est vraiment acclimaté à la chaleur. Plus on va faire de l'exercice au chaud, plus le corps va être capable de transpirer. Alors au départ, on fait un exercice physique lorsqu'il fait chaud, on court pendant une vingtaine de minutes, on va évacuer à 2 000 litres de transpiration. Mais lorsqu'on est vraiment entraîné, dès lors qu'on court 20-25 minutes, on va évacuer 1 litre de transpiration. On va être capable de refroidir beaucoup plus l'organisme. Et donc, on va être acclimaté, en fait, tout simplement. Donc, pour répondre un peu plus précisément maintenant, il faut simplement, s'adapter. Donc, aller faire de l'exercice physique lorsqu'il fait chaud, c'est pas un problème. Il faut juste en faire un petit peu moins. Et justement s'exposer au chaud pour s'adapter. Après, si on va un petit peu plus loin scientifiquement, il y a pas mal d'études qui ont été faites ces dernières années qui montrent que l'exercice en température chaude permet d'augmenter le volume sanguin. Donc, si on a un plus gros volume sanguin, on est capable d'améliorer plus rapidement son activité aérobie. Donc l'exercice en enduro chaude permet globalement d'améliorer plus rapidement son aptitude aérobie. Donc il y a quand même un intérêt quand même à aller s'entraîner lorsqu'il fait chaud.
Après l'effort, souvent on va pouvoir. Alors moi c'est la question que je vais venir parce que les étirements, est-ce qu'on les fait tout de suite après l'effort? Est-ce qu'on les fait plus tard? Est-ce qu'on les fait le lendemain quand il fait chaud, quand il fait pas forcément chaud, mais pour que le corps soit bien après par la suite et éviter le maximum de courbatures?
Oui, bah alors voilà, si on parle d'étirements, bien évidemment il faut les faire après l'effort, mais alors pas immédiatement, il faut se laisser un petit temps. Globalement, on considère qu'il faut faire des étirements lorsqu'on a vraiment repris son souffle. Si on est encore vraiment essoufflé, qu'on est encore les mains sur les hanches, en train de récupérer, et que c'est difficile encore, il faut encore attendre quelques minutes. Les étirements, ça se fait logiquement lorsqu'on est au calme, qu'on a quand même bien récupéré de la séance d'entraînement ou du footing qu'on vient de faire. Et on le fait en utilisant la respiration aussi, les étirements. Donc si vous êtes un peu essoufflé, c'est pas possible de s'étirer tout de suite, il faut encore attendre un petit peu, mais ça se fait quoi qu'il arrive après. Après, on peut aussi faire des étirements le lendemain matin, si on a encore des courbatures, à froid, ça c'est tout à fait possible. Mais dans la majorité des cas, les étirements qui sont réalisés après le sport sont quand même les plus efficaces pour remettre les muscles à une longueur de travail adéquate.
Pour toi, Alexandre, une bonne préparation physique individuelle qui est réussie, c'est celle où tu ne te blesses pas dans la saison, en fait ?
Oui, après, voilà, si on ne se blesse pas physiquement, en n'ayant pas été au contact, parce qu'il y a beaucoup de sports de contact, aujourd'hui c'est difficile de ne pas se blesser dès lors qu'il y a des sports de contact, mais si je prends un exemple de sport où il n'y a pas de contact, type le volleyball, évidemment qu'une bonne préparation, c'est une préparation où on ne se blesse pas au volleyball. Si on est blessé à un moment donné dans la saison, c'est qu'il y a eu des manques, c'est certain. Mais dans les autres sports ou dans les sports individuels, oui, si vous êtes bien préparé, quand on est bien préparé à un marathon, on va au bout du marathon. La barrière des 30 km, elle n'existe que pour ceux qui ne sont pas bien préparés, réellement. Quand on se connaît bien, quand on maîtrise bien ses entraînements, la plupart des coureurs de marathon, ils savent, quel que soit le parcours qu'ils vont réaliser, ils savent à la minute près quasiment le temps qu'ils vont faire. Et il n'y a pas trop de surprises en général. C'est pour ça qu'une bonne préparation, c'est une préparation qui est conduite pour l'épreuve qui est envisagée. Après, quand on parle aussi de préparation, il faut se laisser du temps pour se préparer. Souvent, on veut faire des préparations, mais on n'a pas le temps. Du coup, on charge, on met beaucoup d'entraînement, beaucoup d'intensité, puis à l'arrivée, on en fait trop. Une bonne préparation, c'est de la progressivité. Et c'est la même chose lorsqu'on reprend une activité physique. C'est ce que j'explique à des personnes qui veulent se remettre au sport. C'est à peu près 6 semaines quand même, une préparation pour déjà se remettre correctement au sport. Il y a 3 semaines globalement où pendant qu'on court, on est très essoufflé, on se sent pas très bien et c'est difficile. Et au bout de 3 semaines, ça commence à aller mieux au niveau cardiaque, au niveau pulmonaire. Mais les 3 semaines qui suivent, c'est plus difficile pour les jambes. Donc en fait, il y a 3 semaines d'un point de vue cardio-pulmonaire qui sont assez difficiles, et après il y a 3 semaines d'un point de vue musculaire qui sont un petit peu plus difficiles. Donc c'est pour ça qu'il faut à peu près 6 semaines pour y arriver.
On va rentrer un petit peu dans les outils technologiques, tu sais, les montres connectées, etc. Est-ce que des outils que tu préconises pour le grand public, on va dire ça comme ça, et d'autre part, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, ces outils, notamment enfin toutes les applications qu'on peut trouver sur le smartphone, etc., arrivent à accompagner et guider correctement le sportif dans sa pratique en général? Parce que toi qui connais aussi l'analyse des data, tu sais à quel point la précision des informations qui sont transmise est importante à avoir. Est-ce que, malgré tout, aujourd'hui, d'un point de vue pédagogique, ces outils sont bien conçus ?
Il y a plusieurs choses. Déjà, il y a une énorme progression d'un point de vue technologie ces dernières années, une progression d'un point de vue qualité de la mesure, déjà, et une progression d'un point de vue programme d'entraînement. Ensuite, si on va un petit peu plus loin, évidemment qu'il est très intéressant de se suivre au quotidien. Qu'on soit sportif ou sportif qui démarre, c'est intéressant au moins d'avoir une montre qui va donner des informations de distance parcourue, de vitesse, d'allure de course, de vitesse, éventuellement de fréquence cardiaque, éventuellement de délai de récupération, de savoir si on se sent bien, si on fait des bonnes nuits, voilà. Ça, c'est un certain nombre d'informations qui vont permettre au moins de guider le sportif qui ne se connaît pas trop. à déjà avoir, à avoir un certain nombre de repères. Parce que, évidemment, lorsqu'on est sportif, voilà, un sportif, on lui dit, tu pars faire un footing à 12 km/h, tu es là maintenant, tu cours à 15 km/h. Il y a des gens qui sont capables de le faire, mais ils n'ont pas besoin de montrer, ils n'ont pas besoin de plot, ils n'ont pas besoin de, qu'on leur donne une vitesse et une intensité parce qu'ils se connaissent très bien, ils savent à quelle allure ils sont capables de courir et combien de temps, etc. Pour le sportif lambda ou débutant, évidemment, il lui faut des repères. Donc, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est très important. Et aujourd'hui, il y a plein de produits sur le marché et plein d'applications qui permettent, en tout cas, d'avoir des informations cohérentes. Après, il faut aussi faut aussi parfois avoir un regard un peu critique aussi des informations qui sont données, puisque des fois, il y a des pertes d'informations, des pertes de signaux. Enfin, voilà, si quelqu'un achète une montre GPS et il se dit, j'ai été courir, mais voilà, j'étais en ville et ma montre, elle n'a pas réussi à suivre les chemins que j'ai fait. Ben voilà, c'est parce que très souvent, il y a des pertes de signaux dans les villes ou des pertes de captation satellite. Et donc, on a des petits repères qui disparaissent. Donc voilà, il faut quand même avoir un petit regard critique sur ce qui est fait parfois. Mais ça permet au moins d'avoir un suivi et déjà de démarrer sur... c'est un premier point de départ pour avoir une bonne connaissance de soi. Parce qu'on se connaît lorsqu'on court, mais on a beaucoup plus de difficultés à s'estimer son temps de travail, son temps de récup. Et les outils connectés apportent pas mal de choses. Et aujourd'hui, il y a pas mal d'applications aussi qui donnent des choses très intéressantes sur des programmes d'entraînement, sur des préparations pour faire des 5 km, des 10 km, des marathons. Mais moi, je dis ça pour la course à pied, mais on a la même chose pour le cyclisme, pour l'aviron, le kayak et d'autres sports.
Merci à Alexandre Marle et puis à toi, Christian. On a entendu beaucoup dans cette interview le mot performance. Christian, qu'est-ce que tu en penses de ce mot ?
Oui, un petit peu au même titre que ce que disait Alexandre dans l'interview. Le mot performance est maintenant beaucoup utilisé pour beaucoup de choses. Maintenant, pour moi, ça reste un équilibre entre un état d'être et après la possibilité de faire et d'être justement dans des résultats. Mais si on se préoccupe et uniquement que des résultats, dans une compétition, il y aura toujours un premier, il y aura toujours un dernier. Il y a une forme d'acceptation à avoir et le mot performance, on peut le voir. Moi, je le vois plus en termes de développement et de progrès et finalement, d'un état d'évaluation de où on en est, en fait.
Comment ça se passe dans vos sports respectifs, Olivier et Marianne, en VTT, par exemple? Comment on se prépare physiquement? Est-ce qu'on court? Comment vous fonctionnez sur une préparation physique avant d'arriver sur une grosse épreuve?
La préparation physique est plutôt variée, en fait. Tout dépend du préparateur avec lequel l'athlète décide de travailler. Aujourd'hui, on emprunte beaucoup de méthodes liées à l'athlétisme. Énormément d'athlètes font de la préparation physique généralisée. Beaucoup font de la musculation également. Évidemment, on a des activités complémentaires comme le vélo de route, un peu de course à pied. Ça dépend aussi de ce que les athlètes aiment faire, hein, parce que si c'est trop contraignant, l'entraînement est difficile à maîtriser et puis surtout à suivre. Il y a une grosse partie ludique aussi dans le VTT, puisque on s'entraîne techniquement. Donc à la fois sur différents aspects du pilotage, donc on l'évoquait tout à l'heure, un petit peu en descente, de plus en plus on fait un petit peu de BMX à l'occasion de quelques stages de préparation, de rencontres aussi avec d'autres athlètes issus des spécialités voisines. Donc c'est assez varié. Aujourd'hui, les méthodes d'entraînement restent quand même toujours les mêmes. Hein. On travaille sur le développement des différents seuils. On travaille beaucoup sur l'explosivité, sur les notions d'intensité, de résistance. Donc là, c'est commun, en fait. C'est un socle commun finalement sur toutes les activités. Ce qui va changer, c'est le petit twist en fait de la spécialité. Donc chez nous, lié notamment à des pratiques complémentaires techniques.
Et en sport automobile, comment toi tu te prépares, Olivier? Et puis tout simplement, un sportif de haut niveau, comment il se prépare dans cette discipline?
Eh bien, dans les sports mécaniques en général, on parle aussi de moto également. Effectivement, il faut Il faut une activité physique parce que effectivement pour aller très vite, ça demande aussi beaucoup d'efforts. Malgré qu'on on croit qu'on est assis bêtement dans une auto et puis on passe les vitesses. Il faut savoir aussi que lorsqu'on conduit une voiture de course, il y a une chaleur qui règne dans la voiture qui est quand même assez élevée. On est équipé avec des vêtements unifugés. Donc il fait très très chaud, avec l'événement à diffuser plus la chaleur dans la voiture. Donc effectivement, il faut faire quelques efforts physiques. Moi je fais de la marche, je fais un peu de vélo. Et puis j'essaie aussi de me préparer mentalement aussi, ça c'est important également. Donc de voir plusieurs univers. Maintenant, je vois en moto GP ou en Formule 1 ou je sais pas d'endurance voiture, ce sont des sportifs de très haut niveau qui font des stages de remise en forme, de préparation physique et morale. C'est de plus en plus énorme. Une personne lambda montrée dans une Formule 1, il ne tiendrait même pas un tour, quoi, tellement c'est physique. Mais voilà, même moi en sport amateur, effectivement, il faut essayer de s'entretenir. Surtout, c'est le mental. Effectivement, lorsque le mental est là, tu peux dépasser des limites. Et ça, c'est très très important. Parce que quand le mental est là, le physique suit. Et si le mental n'est pas là, le physique ne suit pas.
Et bien sûr, vous pourrez retrouver la fin de cette interview avec Alexandre Marle. On parlera plutôt généralement de football et de Jeux Olympiques qui arrivent en 2024. Et la grande nouveauté, c'est qu'on a une page YouTube maintenant sur Digradio Sud Vendée. Donc vous pourrez la retrouver directement sur le son podcast dans la page YouTube de Digradio Sud Vendée. Et on continue avec l'actu de la semaine.
Sud Vendée Sport, l'actu de la semaine.
Et l'actu de la semaine, ça s'est passé il y a 8 jours en cyclisme avec la Bretagne classique qui s'appelait auparavant le Grand Prix Le Plouet. Et on a eu un Vendéen, Mathieu Burgodeau de la team Total Energy, qui prend la deuxième place derrière Valentin Madouas. Costaud sur sa deuxième partie de saison après une deuxième place sur le Dauphiné Libéré puis le Tour de France. Il était frustré de ne pas avoir pu claquer cette victoire. On l'écoute tout de suite au micro de Digradio Sud Vendée, l'interview qu'on a pu réaliser la semaine dernière. Bonjour Mathieu.
Bonjour.
Mathieu, tu fais deuxième sur la Bretagne classique à Plouet derrière Valentin Madouas. On a vu que il y avait une grosse frustration à froid après deux jours. Comment tu la ressens ?
Ouais, mais bien sûr. Je suis toujours un peu énervé d'avoir terminé deuxième parce que je sentais que j'avais les jambes pour gagner et que voilà, j'avais tout. Tout s'était déroulé pour que ça se passe bien. Et puis voilà, j'ai fait une erreur de débutant en lançant mon sprint avec trop de braquets. Et du coup, voilà, je perds la course là-dessus. Donc j'étais très énervé. J'étais encore un peu hier. Mais bon, voilà, faut vite passer à autre chose. Donc là, ça va un peu mieux.
Oui, bonjour Mathieu, c'est Christian. Le choix que tu fais à ce moment-là, donc par rapport au braquet, ou le choix que tu ne fais pas de le changer, pour toi, c'est un manque de lucidité en lien plutôt avec le physique ou le mental, en fait ?
Ni l'un ni l'autre. Voilà, je pense que j'étais l'un des coureurs les plus frais de devant. J'ai mal jaugé. L'arrivée, voilà, c'est une arrivée spéciale. Voilà, c'est comme ça.
Malgré tout, quelle saison pour toi ? Deuxième sur une étape du Dauphiné Libéré, deuxième sur le Tour, deuxième ce week-end. Moi, je le vois plutôt positivement, cette saison, Mathieu.
Oui, après, j'ai raté un peu mon début de saison aussi, quand même. J'ai eu pas mal de pépins physiques. Après, la deuxième partie, ça a été mieux. J'ai pu m'exprimer à 100% et voilà, j'ai pris pas mal de plaisir sur le tour avec pas mal de belles places, même si c'était pas la victoire, c'était quand même des belles journées. Mais bon, il me manque quand même cette victoire et j'espère bien aller la chercher avant la fin de saison.
Oui, d'ailleurs, nous, on est observateurs et quand tu es, par exemple, sur le Tour de France, on te sent pousser des ailes, on sent qu'il y a un élan comme ça. C'est quoi tes sensations sur le vélo, en fait, quand tu te sens poussé par le public, quand on voit un peu là, les montées comme au Puy-de-Dôme, etc. Qu'est-ce que tu ressens, en fait, sur le vélo ?
Ça dépend les journées, mais... En fait, c'est compliqué à expliquer les sensations qu'on peut ressortir à certains moments de la course parce que des fois, on est tellement dans notre truc, dans notre bulle, j'ai envie de dire que En fait, il n'y a pas grand chose qui rentre à l'intérieur et on est vraiment concentré sur la chose à accomplir. Et c'est pas facile à expliquer. Je pourrais pas vraiment dire, mais c'est vrai qu'à certains moments, quand même, j'ai eu des frissons dans certaines montées du tour. J'ai pris beaucoup de plaisir et c'est sûr qu'en s'en encouragé par tout le public, ça donne quand même des ailes. Ouais.
Oui, on sent que les sensations sont quand même, malgré les énormes difficultés, sont quand même agréables. Enfin, quand je dis agréable, on voit une souffrance, mais on sent quand même que tu es hyper, enjoué de faire ces efforts, en fait, d'aller au bout de toi.
Bah oui, et puis de toute façon, quand on est lancé dans le boulot, faut pas s'arrêter. Hein, c'est la course, hein, faut y aller. Donc, je suis pas du genre, quand je suis à l'avant, je suis pas du genre à regarder sous la pédale et puis à me laisser abattre. Hein, quand on est devant, faut vider la cartouchière, comme on dit, et puis pas avoir de regrets. Donc,
comment tu vois ta fin de saison là?
Voilà, comme j'ai dit, je vais tout faire pour aller gagner parce que c'est ce qui me manque cette saison pour que la saison soit réussie. Donc, voilà, j'ai à cœur d'aller en claquer une. Là, il me reste 5 courses et voilà, 5 occasions, on va dire.
Et le fait, on te sent quand même devenu leader chez Total Energy.
Ouais, après, j'avais déjà ce statut de coureur protégé déjà depuis un petit moment. Après, voilà, c'est vrai que les résultats parlent pour moi ces derniers temps. Et voilà, l'équipe me fait de plus en plus confiance. Que ce soit le staff ou mes coéquipiers. Voilà, ça me fait bien plaisir. C'est ce qui me galvanise aussi, c'est ce que j'aime. Et je prends ce rôle à cœur, je veux dire. Mais voilà, j'espère vraiment de tout cœur gagner parce que c'est ce qui me manque et j'ai envie de remercier tout le monde avec cette victoire.
Et justement, sur cette fin de saison, comment on gère les entraînements pour aller justement aller claquer cette victoire?
Bon, on les gère comme le reste de la saison, voilà, en fonction des sensations et puis les différents profils de course qui vont arriver. Voilà, je vais pas changer mes habitudes, hein, rester sérieux, rester sérieux à l'entraînement et puis en dehors jusqu'à la fin de saison et puis on verra bien.
Le cyclisme vendéen avec toi se porte plutôt bien. Il y a aussi un peu des jeunes comme toi derrière qui viennent pousser un petit peu.
Ouais, il y a toujours eu un bon élan en Vendée. Voilà, c'est vrai que le vélo en Vendée, c'est quand même il y a quand même beaucoup de cyclistes vendéens qui ont du talent. Je suis pas le seul. Il y a un ami à moi, Émilien Janière, qui est passé professionnel dans l'équipe cette année. Et je fais une belle saison pour un néo-pro, donc voilà, je suis content pour lui. Et puis, il y a plein d'autres jeunes coureurs du Vendée U, du Pôle Espoir, qui vont arriver. Et on a besoin de ça aussi pour l'équipe et pour notre département.
On te voit l'année prochaine sous le même maillot?
On va voir. Oui, normalement, mais là, je peux... Il n'y a rien d'officiel, donc je ne vais pas en dire plus.
Pas de souci. Merci beaucoup, Mathieu. On ne va pas te déranger plus longtemps. Merci d'avoir pris du temps pour nous. Et puis, on te souhaite une très belle fin de saison et on te souhaite que tu la claques, cette victoire.
Merci bien.
Merci. En tout cas, nous, on va suivre la Team Total Energy pour cette fin de saison qui figure plutôt bien sur le Tour d'Espagne avec une victoire de Geoffrey Soupe et la 12e place actuellement de Steph Kras à 9 minutes du leader. Plus généralement, on a vu cet été sur le Tour de France ou encore sur le Tour d'Espagne des performances incroyables de coureurs. Marianne, la spécialiste du vélo VTT, la performance technologique a très évolué depuis une vingtaine d'années. Comment tu analyserais ces performances actuellement?
Bien, ces performances, en fait, elles sont aussi liées à un travail acharné des différents constructeurs qui existent aujourd'hui sur le marché, sans tous les citer. Mais beaucoup ont travaillé sur le cadre, sur l'évolution des géométries. On a vu apparaître aussi les freins à disque hydrauliques qui ont été décriés pendant un moment sur la route et qui maintenant font légion sur l'ensemble des compétitions. Alors, je pense que ça participe très largement à la performance. Un frein à disque hydraulique, alors c'est vrai que c'est un petit peu plus lourd. En revanche, on a un freinage qui est bien meilleur, qui est plus performant, qui est plus progressif ou plus dégressif selon les moments. Donc, ça permet d'aller parfois beaucoup plus vite pour freiner beaucoup plus fort. Très certainement, ça rassure aussi certains pilotes, enfin je dis pilotes, mais certains cyclistes. Beaucoup ont des difficultés en descente, sont très bons grimpeurs, mais ils perdent du temps en descente. L'apparition aujourd'hui du frein hydraulique a ce côté rassurant aussi. C'est vrai qu'on a du mal à imaginer sur les anciennes roues d'avoir un tout petit patin qui fait 4 cm à peine de large sur 0,5 à 0,6 mm de hauteur, que ça puisse être extrêmement performant au freinage. Alors il n'y a pas que la nature du patin, il y a aussi la nature de la roue et le matériau dans lequel elle est constituée. Mais aujourd'hui, l'évolution technologique dans l'ensemble des sports et des sports mécaniques, puisque le vélo reste un sport mécanique, ça fait complètement partie de ce que l'on attend, alors en termes de sport spectacle et puis aussi tout simplement en termes d'évolution. Les gens ont besoin d'aller plus vite, hein, dans notre vie de tous les jours. On se sent bien que quand on va plus vite, donc il faut répondre à cette demande-là. Donc là, on part un petit peu sur un autre aspect plutôt métaphysique, mais une chose est sûre, c'est qu'en quelques années, les vélos ont perdu du poids. Donc, on a retravaillé aussi sur une certaine élasticité des fibres pour rendre à la fois le vélo plus rigide, avec tout autant de confort. Donc, c'est assez particulier. En fait, il faudrait interviewer, ça pourrait être une prochaine étape, mais par exemple, une marque comme Lapierre, qui aujourd'hui a d'excellents résultats avec la Française des Jeux, c'est toujours très intéressant de savoir comment sont conçus les cadres, comment sont tissées les fibres, notamment au niveau du carbone, parce que ça ramène beaucoup d'explications et de solutions sur la manière dont on pédale, la manière dont l'effort est réparti aussi au niveau du boîtier de pédalier, comment c'est rapporté en fait sur l'ensemble des tubes du cadre. Donc évidemment, je ne parle pas du tout de préparation physique, mais l'évolution technologique aujourd'hui du matériel influence grandement la performance sportive.
Merci en tout cas pour toutes ces références techniques. On va revenir un petit peu dans notre Sud-Vendée avec la mise en avant d'une association sportive locale qui est bien connue dans le paysage fontenaisien et même vendéen. Nous sommes partis à la découverte du Handball Club fontenaisien avec Aurélien Rabet et Stécie Véroche, les deux coprésidents qui nous présentent l'association.
Il a été créé en 1964. On a fêté les 55 ans du club l'année dernière. Moi, j'ai commencé il y a 9 ans, donc j'ai toute une partie que je connais pas. C'est un club qui a bien existé au sein de Fontenay. Le handball avant était bien représenté. Il y a eu déjà des équipes en région. Il y a eu des organisations nationales qui ont été faites à Fontenay, même internationales. J'ai vu dans les archives qu'il y a eu l'organisation de mondiaux ici. Donc voilà. Donc l'objectif, ce sera pas d'organiser une rencontre mondiale ici, mais au moins de représenter comme il a pu être représenté auparavant le club maintenant.
Est-ce que tu peux nous dire un peu ton rôle? On en a parlé, tu es coprésidente mais aussi entraîneuse. Ton rôle exact et qu'est-ce que tu fais au quotidien au club du HBC?
Au quotidien, je suis là très souvent. J'entraîne des équipes jeunes, j'entraîne les seniors filles. Et donc tout le samedi, je suis soit sur les routes de Vendée pour voir toutes les salles ou alors je suis ici pour organiser les compétitions.
Aurélien, tu viens d'intégrer la coprésidence cette année. Pourquoi l'avoir intégrée et quel est ton rôle actuellement en tant que coprésident du club?
Alors moi j'ai intégré le handball club parce que j'étais déjà joueur depuis quelques années. J'ai très vite aimé la nouvelle coprésidence menée par Stécie puis tout ce bureau qui se sont donnés à fond et à 10 000% pour faire de ce club un club avec des valeurs, et ça c'était hyper important pour moi, c'est ce que je prône ayant été déjà coprésident d'une autre association. Dans l'idée de coprésidence, bah voilà, c'est de pouvoir épauler Stécie sur plein de sujets. L'idée c'est qu'elle porte pas toute seule avec le bureau toutes les actions, l'idée c'est de les mener à deux, c'est pouvoir aussi se dispatcher les tâches. Je pense qu'on l'a plutôt bien fait en début d'année, maintenant on va voir ce que ça va donner sur toute la saison. Et puis d'être présent comme elle majoritairement le samedi, et puis dès qu'il y a des petits couacs, faut qu'on soit là aussi, hein. Les coprésidents c'est aussi leur tâche, c'est aussi un peu les parents des joueurs, les parents des parents, et l'idée voilà c'est de transmettre les bonnes valeurs d'un club et d'un groupe, et ça je pense que c'est le plus important aujourd'hui pour un club pour pouvoir le pérenniser sur du long terme.
Alors quand on parle de valeurs, on parle de valeurs de respect, mais est-ce qu'il y a d'autres valeurs que vous mettez en place ici au club?
Il y a les valeurs déjà donc humaines aussi, hein. L'idée c'est qu'on travaille avec des humains, mais on joue aussi avec des humains. Il va y avoir les valeurs sportives. À un moment donné aussi, on est un peu compétiteur dans l'âme. Faut pas oublier que l'année dernière, on a eu la chance d'avoir trois équipes qui ont été en demi-finale de Coupe de Vendée. C'est pas neutre, faut savoir le souligner. Le regret que j'ai toujours, c'est que c'est pas encore assez mis en avant. Donc là, on va espérer avec Stécie toutes les bonnes valeurs qu'on a, qu'on ait la chance d'avoir des émetteurs comme dit Gradio, et voir peut-être d'autres presses qui puissent se mettre en avant le hand toute cette année. Et puis après, les valeurs, c'est les valeurs d'amusement et d'ambiance. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, on a un club avec une super ambiance, des super joueurs, des bonnes personnes qui veulent mener à bien voilà cette mission, au moins encore toute cette année. Donc voilà, j'espère que l'année prochaine, ou du moins fin d'année, on puisse fêter, je dirais, peut-être quelques victoires sur la Coupe de Vendée.
Et en tant qu'entraîneuse, les objectifs sur le terme sportif, est-ce que vous en êtes fixé sur au moins les équipes féminines, et puis pourquoi pas après, même avec les jeunes?
Oui, donc point de vue sportif, on a deux équipes jeunes qu'on aimerait mettre au plus haut niveau dans leur catégorie, donc les moins de 13 filles et les moins de 12. Nous, on fixe notre formation vraiment sur les jeunes. On a beaucoup de jeunes qui partent dans les gros clubs pour jouer à plus haut niveau. Donc là, l'objectif, c'est de créer des groupes et des groupes qui peuvent évoluer ensemble pour éviter qu'ils partent dans les autres clubs et qu'on puisse leur permettre de jouer aussi à Fontenay ou en haut niveau.
Et après, en termes de licenciés, combien vous en avez? Est-ce que vous en recherchez?
Alors, on recrute. On recrute dans toutes les catégories. On a l'objectif de recruter en senior gars. On veut en fait redynamiser le pôle masculin, puisque moi, quand j'ai commencé il y a 9 ans, c'était la signature, c'était les gars à Fontenay. Là maintenant, la tendance a un petit peu évolué et on a plus de filles que de gars. Donc l'objectif, c'est de remettre tout à niveau, de retrouver un projet sportif sur l'équipe masculine qui en fait descendra après chez les jeunes, etc. Et donc on se donne les moyens et on cherche encore des seniors gars et dans toutes les catégories en fait.
Est-ce qu'on Aurélien, on peut parler de restructuration un peu du club, ou alors c'est plutôt une évolution et des objectifs assez élevés pour le club de Fontenay?
Alors restructuration, je te dirais oui à l'époque où quand Stécie a repris le club. Moi je pense qu'il y a une vraie restructuration à ce moment-là parce qu'il y a des choses qui ont été faites peut-être moins bonne ou un peu différenciante par rapport à ce qu'on souhaitait. Là, l'idée, c'est de repartir avec une vraie structure d'équipe, comme l'a annoncé Stécie. Voilà, d'avoir une équipe masculine, c'est aussi important pour un club, même si je pense que notre équipe féminine porte bien le club avec toutes ses valeurs. Et on a des vrais objectifs. Je pense qu'aujourd'hui, il faut se donner les moyens. Alors, on a des beaux clubs autour de chez nous. On va parler de Pouzauge, on a La Roche-sur-Yon, on a même Fousset-Perret qui est pas très loin de chez nous. Je pense qu'il n'y a pas à rougir de tous ces clubs-là, parce que je pense qu'on peut le devenir. Maintenant, la chance de travailler avec Stécie, c'est qu'on s'est donné les moyens sur 2, 3, 4 ou 5 ans d'amener déjà un projet sportif, un projet associatif qui est assez rare dans les clubs. Et l'idée, voilà, là on va le restructurer avec ça et on espère que tout le monde va nous suivre, des joueurs, joueuses, parents et puis tous les bénévoles qui nous entourent.
Le HBC Fontenaisien, c'est aussi des partenaires, c'est aussi une association. Vous êtes accompagné. Est-ce que vous recherchez d'autres partenaires? Parle-nous un peu plus, Aurélien.
Alors, j'ai de la chance d'être le responsable de sponsoring de ce club. Je te dirais que ça a plutôt bien commencé, puisqu'on a déjà quelques sponsors pour l'achat de jeunes maillots. Donc ça, c'est plutôt bien. Je vais pas les citer tout de suite, parce que j'aimerais bien que ce soit officialisé. Là sur le début de saison, on cherche toujours des partenaires. Et je sais qu'aujourd'hui, pour avoir été président du de Fontenay sur l'Association des commerçants, on est toujours hyper sollicité pour donner. Là, l'idée, c'est de trouver plusieurs sponsors, même qui donnent des petites sommes, 50, 100, 150. Aujourd'hui, ça nous permet d'acheter quand même du matériel, ça nous permet d'organiser des soirées et continuer d'acheter voilà des jeux de maillots pour les équipes à qui il en manque. Voilà, donc je fais appel à tous les bons dons. Geek Radio, s'ils ont la capacité éventuellement de nous sponsoriser, c'est avec grand plaisir qu'on les accueillera parmi nos sponsors. Et dans l'idée, vu avec Stéphanie tout le bureau, de faire sur cette fin d'année, voilà, un dernier match avec le regroupement des sponsors et des bénévoles, voilà, pour finaliser un peu la fin d'année 2024.
On parle de terme d'événements. Est-ce qu'il y a des événements de prévus dans l'année, rapidement, Stéphanie?
Oui, là, on a commandé un packaging pour nos jeunes, pour qu'ils puissent faire Escort Kid au HBC Nantes. Donc, ça serait pour le match HBC Nantes-Benfica. Donc, on va leur proposer ça pour nos jeunes. C'est toujours intéressant de voir des équipes jouer à haut niveau. Comme ça, ils peuvent s'identifier, ils peuvent voir ce qu'on leur demande de faire. Et c'est toujours bien. Quand on est passionné, on a envie de voir ça. Donc, on est hyper fiers et hyper contents de leur proposer ça. Après, on a toujours nos tournois en interne, le géant de Noël, ou le géant d'été qui se fait en fin d'année.
Qu'est-ce que vous diriez à des gens ou des auditeurs de Geek Radio qui souhaiteraient se lancer mais qui n'osent pas trop et qui ne connaissent pas forcément le club?
Ben, nous, on leur propose, c'est de venir faire une journée d'essai, ou du moins un entraînement d'essai, voilà, pour voir un peu ce qu'on incarne comme valeur, que le hand, c'est aussi sympa que du football, que du rugby ou du basket, peut-être un peu moins télévisuel, mais aujourd'hui, on a quand même une belle équipe nationale, faut pas omettre de le dire, deux, avec les féminines et les masculines, tenant du titre, donc, je pense qu'il y a autant de valeur aujourd'hui que le football. L'idée, c'est que, faut venir voir aussi toutes les équipes, des plus jeunes jusqu'aux plus âgés, et après tout ça, s'ils sont aptes à venir, et voilà, on peut entendre aussi quelques joueuses avec cri. Voilà, c'est ça l'esprit club. C'est aussi cette bonhomie entre nous. Voilà, donc ça, faut pas hésiter à venir. Et je pense que les gens qui viendront ici dans ce club, c'est pour trouver aussi une grande famille. Faut pas l'oublier.
Si on veut venir voir au moins les matchs des seniors le week-end, il y a les jeunes, forcément, on y pense, mais les seniors, les matchs, on va dire un peu de gala. Quand est-ce que c'est et où ça se trouve?
Alors c'est le samedi soir à la salle des Moulins. Tout est noté sur notre Facebook, HBC Fontenaisien. Il y a toutes les affiches. Vous venez, il y a de la bonne bière. Donc vous serez bien accueillis.
Vous pouvez les retrouver et les encourager à la salle des Halles des Sports des Moulins. Ou si vous souhaitez tout simplement découvrir ce sport, vous pouvez aller sur la page Facebook HBC Fontenaisien. Et nous suivrons dans le Sud-Vent des Sports les différents résultats. Et enfin, on conclut ce Sud-Vent des Sports avec un nouveau partenariat. Vous l'avez vu sur nos différents réseaux sociaux cet été. Nous allons accueillir deux nouveaux chroniqueurs dans le Sud-Vendée. Ils s'appellent Théo et Stan Robineau. Ils ont créé leur page Insta Vendez-nous le foot. Explication à notre micro.
Vendez-nous le foot, c'est un concept qu'on a créé en début d'année, aux alentours du mois de février. Donc l'objectif, c'était de pouvoir donner la parole au maximum aux acteurs du football vendéen. Donc moi, je suis éducateur de football et je me suis dit pourquoi pas. C'est ce que j'aime dans mon métier, c'est pouvoir échanger avec l'ensemble des acteurs, que ce soit arbitre, éducateur, président, bénévole. Et je pense qu'on peut donner la parole à beaucoup de personnes. Et donc c'est venu comme un flash en quelque sorte. On s'est dit bingo, pourquoi pas faire ça. Mon frère est vraiment passionné, donc je l'ai appelé et on s'est lancé dans ça, exactement.
Stan, tu as rejoint aussi l'aventure de Vendez-nous le foot. Pourquoi avoir rejoint cette aventure avec ton frère?
Comme il l'a dit, tout simplement, on est passionné depuis notre plus jeune âge. Et c'est vrai que cette initiative de Vendez-nous le foot, elle peut nous permettre de se créer un réseau de connaissances dans le football vendéen. Et c'est ce qu'on cherchait aussi au départ de cette initiative. Et donc, c'est aussi pour ça qu'on a créé ce projet.
Alors, vous nous parlez de contenu. Qu'est-ce qu'on va retrouver? Qu'est-ce qu'on y retrouve sur cette page Instagram de Vendez-nous le foot?
Alors, actuellement, on retrouve des interviews écrites, donc avec différents acteurs du monde du football vendéen, donc que ce soit bénévoles. Alors, pour l'instant, les bénévoles sont vraiment en projet, mais on va retrouver des bénévoles prochainement sur notre page Instagram. Mais on retrouve essentiellement des éducateurs, des arbitres. Donc, on leur donne la parole pour qu'ils puissent s'exprimer.
Et il parle de quoi? De foot, forcément, mais est-ce que c'est plutôt sur un domaine tactique? Est-ce que c'est plutôt un domaine général? Qu'est-ce que vous nous vendez dans le foot, Stan et Théo?
Eh bien, en fait, on va retrouver principalement dans ces interviews leur manière de fonctionner avec leur groupe de joueurs, leur approche de l'entraînement, comment ils gèrent une séance d'entraînement, comment elle est construite, et tous ces aspects-là. et aussi sur l'aspect tactique, leur manière de penser le football, de le mettre en marche, etc.
Et vous êtes, je suppose, passionné de foot. Vous, Théo, tu disais que tu étais éducateur, tu es sûrement joueur. Dans quel club tu joues, où vous jouez tous les deux?
Alors actuellement, moi je suis éducateur au Comque Sport Football, donc en Vendée, donc depuis 2 ans maintenant. Donc je suis aussi joueur là-bas, et donc à force de côtoyer des éducateurs, des joueurs passionnés, je me suis dit pourquoi pas lancer ce concept de VNF. C'est vraiment pour moi quelque chose qui a constitué une base importante dans le début de mon parcours.
Et toi Stan, du coup, tu joues dans quel club?
Moi je suis joueur à l'AS Châtaigneraie.
Vendez-nous le foot, donc il y a combien d'abonnés actuellement sur votre page?
Alors là, on est aux alentours des 280 abonnés.
Et vous avez eu quelle personne, quel type de personne, des noms par exemple, si vous pouvez nous en citer quelques-uns?
Alors pour l'instant, en interview écrite, on a eu Laurent David, donc on a eu
le coach des Herbiers,
le coach du VHF. Donc on a eu essentiellement aussi des éducateurs qui forment au niveau de la Ligue des Pays de la Loire, comme par exemple Sonny Bourri qui est présent sur certains modules, des éducateurs vraiment, vraiment passionnés aussi comme Clément Rondeau du côté d'Ardelais. Donc pour l'instant vraiment on donne la parole à tout le monde, on ne veut pas faire uniquement donner la parole aux clubs les plus importants, on veut vraiment que tout le monde puisse avoir la parole au sein du département.
Et vous arrivez sur les ondes de Digue Radio Sud Vendée cette année dans le Sud Vendée Sport. Expliquez-nous un petit peu ce partenariat. Alors moi je le connais forcément parce qu'on en a discuté, mais expliquez un peu aux éditeurs de Digue Radio ce que vous allez faire dans l'émission du Sud Vendée Sport.
Oui, c'est vrai qu'à l'origine de notre projet, on avait cette idée de vouloir réaliser des podcasts. Au départ, on n'a pas voulu directement se lancer là-dessus parce que ça nécessite beaucoup de matériel, beaucoup d'investissements, etc. Et Digue Radio nous offre la possibilité de pouvoir se lancer là-dedans. Et donc, pourquoi pas collaborer ensemble pour réaliser nos objectifs ensemble.
Donc là, on va pouvoir réaliser une fois par mois des interviews avec différents acteurs du monde du football, donc que ce soit joueurs, arbitres ou éducateurs. Donc ce sera réparti sur différents secteurs du département pour qu'on puisse passer sur l'ensemble de notre territoire vendéen.
Ça va vous apporter une belle visibilité aussi pour Digue Radio, qu'est-ce qu'on va être au cœur de l'événement footballistique de Vendée?
Exactement, l'objectif c'est vraiment de pouvoir retranscrire au maximum ce qui se fait de beau dans notre sport sur le territoire, et donc là de pouvoir être au contact des acteurs et de pouvoir vivre ça, c'est vraiment quelque chose de très enrichissant. Ça va nous donner de la visibilité, c'est ce qu'on souhaite aussi, puisque la parole doit pouvoir être donnée à tout le monde, et ça va aussi enrichir Digue Radio aussi de nouveaux contenus, et donc on est très fiers de pouvoir collaborer ensemble.
Ah oui, nous, on est très fiers de vous accueillir. Si on veut aller sur votre page Instagram, comment on fait?
C'est très simple, on tape VNF-85 et on tombe directement sur notre page Instagram avec les différentes interviews qu'on a réalisées.
Et le premier invité sera Kylian Auger, éducateur aux Herbiers, qui sort d'un grand parcours en Gambardella, qui est la Coupe de France pour les jeunes en faisant un quart de finale avec le club de Carquefou. Et on arrive à la fin de ce Sud Vendée Sport, nouvelle saison, nouvel épisode, épisode numéro 1. Et merci à vous tous les trois d'être venus au micro Digue Radio. On se revoit le lundi 2 octobre à 19h et on parlera sport, bien sûr, sur Digue Radio Sud Vendée. Merci tous les trois.
Merci
les amis. À bientôt.
Rendez-vous le lundi 2 octobre sur Digue Radio Sud Vendée, 19h pour le prochain Sud Vendée Sport.
Toute la journée, vous écoutez Digue Radio sur digueradio.fr.